Ah, des fermes.
Bah, des arbres.
Des fermes.
Et des arbres.
L'émission qui parle d'agriculture
et de forêt.
Venez découvrir
des initiatives,
des réflexions,
des actions
qui se font chez nous
et près de chez nous. Et c'est sans langue de bois
sur Radio Bartas 107.0.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des fermes et des arbres. Bonjour François.
Bonjour Nathalie.
Je vous retrouve donc après ma désertion de la dernière émission dans laquelle François a parlé de la valorisation de la laine.
Et je suis ravie de te retrouver.
Et oui. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de deux sujets suite à des visites que nous avons pu faire chacun de notre côté et dont on souhaitait vous parler. Alors, un premier sujet aura pour thème la gestion forestière et plus précisément la sélection des arbres en forêt. Et le deuxième sujet, François ?
Mais quant à moi, je vais vous parler de l'évolution du cynips. Donc, c'est un parasite qui affecte le châtaignier. Et donc, j'étais à une réunion la semaine dernière à Piedborne où intervenait Jean-Michel Thévier de la Chambre régionale d'agriculture.
Très bien. Commençons tout d'abord par la forêt et la gestion forestière. Parce qu'en effet, je suis allée le vendredi 2 octobre en forêt, non pas pour ramasser des champignons, comme vous l'avez dit, François, mais pour suivre un petit groupe de propriétaires privés qui ont appris à sélectionner des arbres avec le Centre Régional de la Propriété Forestière à Bar-des-Cévennes. Donc cette technique de sélection est appelée martelage, mais on verra plus loin d'où provient ce mot. Cette formation et visite en forêt est l'occasion pour moi donc de vous parler de la propriété forestière et de sa gestion. Tout d'abord, je souhaitais vous rappeler qu'avec 232 000 hectares couverts de forêt, soit 45% de la surface départementale, la Lozère est le département le plus boisé de la région Languedoc-Roussillon. Au sud de la Lozère, on est même plus en moyenne autour de 60%. Donc chez nous, autour de Florac, là, on a plus de 60% de taux de boisement. Mais cette forêt appartient pour 80% à des propriétaires privés et pour 20% à des propriétaires publics, que ce soit l'État, on parle alors de forêt domaniale, ou les communes et comités de communes, on parle alors de forêt communale ou intercommunale. Et par chez nous, on a des petites spécificités. On a également une particularité que beaucoup connaissent bien, à savoir les forêts sectionnales. Tout comme il existe des sections agricoles, il existe également des sections forestières. En gros, ce sont des forêts qui appartiennent à des habitants de hameaux de communes. Mais on en reparlera peut-être dans une prochaine émission, puisque c'est un sujet bien à part. Pour l'heure, concentrons-nous donc sur la gestion forestière. Avant d'aller voir ce qui se fait sur la forêt de Bar-des-Cévennes, je voulais vous parler de ce qu'est effectivement la gestion forestière. Donc la gestion forestière consiste à envisager, à planifier sur le long terme les opérations à mener sur une forêt, afin de conserver l'équilibre entre le besoin des hommes et la préservation de la nature. Les forestiers décrivent ces opérations dans des plans d'aménagement pour les forêts publiques, ou on appelle ça des plans de gestion, dans les forêts privées, de plus de 25 hectares. Ces documents permettent de garantir une gestion durable de la forêt puisqu'ils sont rédigés en fonction d'un diagnostic effectué sur les parcelles et qui prend en compte les différentes fonctions de la forêt, fonction économique, fonction environnementale, fonction sociale. Pour les forêts de moins de 25 hectares, le propriétaire a également la possibilité de rédiger un document de gestion simplifié, à savoir soit un règlement type de gestion ou un code de bonne pratique sylvicole. On ne va pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui sur ce genre de document. Mais à savoir que dans ces documents, plusieurs orientations peuvent être prises selon le choix du propriétaire et selon les parcelles qu'il possède. Par exemple, il va faire le choix de récolter des arbres en vue de produire du bois de chauffage, en vue d'avoir du bois pour la construction. Il va choisir peut-être de préserver une partie de sa forêt pour pouvoir s'y promener. Il va peut-être choisir de favoriser la production de champignons, laisser certains arbres morts sur pied pour favoriser la biodiversité, etc. Les documents précisent également quand seront récoltés les bois, le but n'étant pas d'exploiter tous les bois au gré de besoin, mais bien de planifier les coupes dans une optique de gestion durable. Mais qu'est-ce qu'une gestion durable ? Alors, je vais vous lire ce qui est indiqué sur le site internet de l'Office national des forêts, qui nous en donne une définition. Attention, c'est parti. Dans une perspective de gestion durable, les grands principes de l'exploitation des forêts ont été précisés lors de différentes conférences internationales. La Conférence européenne pour la protection des forêts en Europe a, lors de la réunion d'Helsinki en 1993, énuméré les critères retenus. Ces critères de gestion durable sont repris dans l'article 1 du Code forestier et les principaux critères sont les suivants. 1. Assurer la santé et la vitalité des forêts. 2. S'assurer des capacités de régénération des forêts, c'est-à-dire ne pas se mettre dans des situations où on n'arrive plus à renouveler les peuplements à leur terme pour les générations futures. Troisième critère, s'assurer que la fonction économique de la forêt est durablement satisfaite, notamment pour les besoins en écomatériaux de la filière bois, ce qui contribue à lutter contre l'effet de serre par piégeage du carbone tout en maintenant la productivité des forêts. Et enfin, quatrième critère, s'assurer que les fonctions sociales et environnementales sont prises en compte, notamment concernant l'accueil du public, le maintien de la biodiversité et l'équilibre faune-flore. Et la plupart, ils rajoutent que la plupart de ces critères sont traités dans les aménagements forestiers, donc comme on a vu tout à l'heure, et quelques autres, comme la nécessité d'assurer la santé et la vitalité des peuplements, sont des principes de base de la sylviculture. Bien, après cette grande introduction donc, sur la propriété forestière et sur sa gestion, on va revenir à notre cas de la forêt de Bar des Cévennes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le Centre régional de la propriété forestière, établissement public, a fait une information de terrain auprès des propriétaires pour leur apprendre à sélectionner les arbres. Et je vous propose pour commencer de découvrir cette forêt dans laquelle nous avons sélectionné ces arbres à travers les yeux de son propriétaire, M. Henrès. Et dans la forêt de M. Henrès à Bar des Cévennes. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre forêt, l'historique peut-être, le nombre d'hectares ?
Oui, à moi c'est la forêt d'un groupement forestier qui a été créé en 73. Qui est issu d'une indivision.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'exactement un groupement forestier ?
Un groupement forestier, c'est une société civile qui est créée à partir d'une succession en général.
Et dans la forêt du groupement forestier, donc une forêt de hêtres, l'historique un peu de cette forêt ?
Cette forêt, enfin, je ne me remonterai pas très loin. À partir de la création du groupement forestier, c'est une forêt qui appartenait à la famille. Et au moment de la succession, la disparition du propriétaire, les héritiers ont créé le groupement forestier.
En quelle année ?
C'était en 73.
Et combien d'hectares vous avez ?
400 hectares, dont une petite partie est agricole. Et le reste était principalement des landes. Que l'on a donc reboisé le jour de la création du groupement forestier, avec le Fonds forestier national.
Et quelles essences vous avez reboisé ?
Les essences donc étaient choisies par la direction de l'agriculture, éventuellement du résineux, c'est-à-dire du douglas et du larichot de Corse.
Et là, on est dans une forêt de hêtres ?
Là, on est dans une forêt de hêtres parce que c'est une partie de la propriété du groupement forestier était déjà en forêt de hêtres, n'a pas été inclus dans le reboisement. On s'est contenté de conserver les hêtres et éventuellement de les sélectionner.
Vous en faites du bois de chauffage un peu ?
Ça a servi beaucoup de bois de chauffage dans les années 50. Et ensuite, on fait quelques prélèvements de bois de chauffage et éventuellement d'éclaircie.
Donc on voyait bien que M. Henrès a donc 400 hectares de forêt. Rappelez-vous, 400 hectares, il a donc un plan simple de gestion. Il nous parle également de groupement forestier, qui est effectivement une société civile, comme il le disait, qui regroupe plusieurs associés qui mettent en commun des biens, donc là, en l'occurrence, des parcelles forestières, afin d'améliorer et de gérer le massif forestier. Et donc, en fait, les propriétaires ont des parts sociales dans ce groupement. Ça, c'était juste une petite précision par rapport au groupement forestier qui est assez intéressant. On revient à la formation parce qu'un des objets de la formation était d'apprendre à sélectionner les arbres sur une parcelle. Donc pour cela, Loïc Moline et Jean-Yves Magot du Centre régional de la propriété forestière ont demandé aux participants de marquer les arbres, à savoir matérialiser individuellement les arbres, soit ceux à conserver, soit ceux à récolter. Ici, le but était de repérer les plus beaux arbres et de façon à les favoriser et à améliorer la qualité de la forêt. Mais écoutez plutôt les explications de Loïc Moline. Bon Loïc, on est en forêt, oui. Donc il y a des participants. Qu'est-ce que tu leur as demandé de faire ?
Donc là, les participants en fait, sont un groupe de propriétaires forestiers privés, donc qui possèdent des parcelles boisées dans les Cévennes. Et donc là, l'objectif de l'exercice, c'est d'apprendre à marquer les arbres, à sélectionner les arbres, donc pour réaliser des coupes d'éclaircies. Donc la forêt pousse toute seule, pas toujours comme l'homme le veut, donc le sylviculteur oriente un petit peu cette forêt en sélectionnant les arbres et en aidant les plus jolis. Les plus jolis étant les arbres les plus droits, les plus en forme, les plus vigoureux, et ceux aussi qui ont le moins de branches possible. Voilà. Et donc là, les propriétaires vont devoir essayer d'appréhender un petit peu ces critères et de les identifier afin de réaliser le martelage le plus pertinent.
Et donc là, on est sur quel type de forêt ?
Donc la forêt qui sert un petit peu de travail là, pour les propriétaires, c'est un taillis de hêtres. Donc plusieurs brins issus d'une même CP. Il y a déjà eu une intervention il y a à peu près 15 ans ici, donc avec déjà une sélection, une réduction de la concurrence et du nombre de tiges. Et aujourd'hui, depuis 15 ans, les arbres ont poussé, ont utilisé au maximum l'espace aérien. Et il faut maintenant à nouveau repasser en éclaircie pour continuer ce travail de sélection et d'accroissement permanent.
Voilà, donc ça c'était les explications donc, de Loïc Moline. Les participants ont donc marqué les arbres dans le cadre de cet exercice avec un ruban. Mais les forestiers utilisent soit de la peinture, ce qui est le plus fréquent en fait aujourd'hui, soit un marteau forestier. Et d'ailleurs, donc pour la petite histoire, cette sélection des arbres est appelée martelage parce qu'elle était au départ réalisée au marteau forestier. Donc une fois les arbres sélectionnés, il a ensuite été demandé aux participants de prendre les mesures des arbres sur la parcelle. Ils ont mesuré la hauteur des arbres, leur diamètre et le nombre d'arbres situés sur cette zone. Bon, il y a différents outils spécifiques qui permettent de prendre ces mesures, comme le compas forestier ou la croix du bûcheron. Mais rassurez-vous, on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin, de nombreuses informations sont possibles auprès de l'Office national des forêts ou le Centre régional de la propriété forestière. Donc cette journée en forêt a été très très instructive pour les propriétaires forestiers qui ont appris à sélectionner leurs arbres. Et c'est pour ça que je voulais vous en faire le retour, ça me permettait aussi de parler un peu de gestion forestière dans cette émission. Mais il est maintenant temps que je laisse la parole à François qui trépigne d'impatience sur son siège parce qu'il souhaite vous parler de la châtaigneraie et d'une visite qu'il a pu faire à Pied-de-Borne, voilà, c'est ça. Avant, petite pause musicale quand même avec Seven Hells par Brown Bird.
Love Thomas, the shot at that secret's a safe.
Voilà, vous êtes de retour sur Radio Barthas dans l'émission Des fermes et des arbres. On va donc laisser de côté la gestion forestière, mais on y reviendra, hein, promis Nathalie.
Oui.
Voilà, on va quand même rester sur le thème des arbres et on va parler de châtaigniers. Alors j'étais présent le 24 novembre dernier à Piedborne pour une réunion d'information sur le synips du châtaignier. Donc le synips, c'est le parasite qui affecte actuellement toutes les châtaigneraies, particulièrement en Cévennes, mais c'est vrai dans toute la France. Donc cette réunion était organisée à l'initiative de la charte forestière Cévennes-Margeride. Donc pour la situer, elle est sur le bassin de Villefort. Et donc c'est Jean-Michel Thévier qui est donc le référent de la culture châtaignier et spécialiste du synips à la Chambre régionale d'agriculture Languedoc-Roussillon qui a présenté le bilan de la lutte contre le synips en 2015. Et donc je vous propose de vous faire part un petit peu de ce bilan en quelques minutes. Alors déjà pour commencer, pour vous rappeler que le synips du châtaignier est un parasite considéré au niveau mondial comme le ravageur le plus important du châtaignier. En effet, il s'agit d'un petit hyménoptère noir de 2 à 3 mm de long. Alors, il pond en juin et juillet dans les bourgeons, et les jeunes larves passent l'hiver dans les bourgeons sans qu'il y ait de symptômes apparents. Ce n'est qu'à partir du printemps que des galles apparaissent. Ces galles, de couleur verte à rouge, de 5 à 20 mm, peuvent être situées sur tous les organes verts, c'est-à-dire la nervure, le pétiole de la feuille, le rameau, l'inflorescence, etc. Elle provoque une diminution importante de la pousse des rameaux et de la production puisque les fruits sont situés sur le bois de l'année. Et on a pu assister par exemple en Italie à des baisses de production allant de 60 à 80%. Les adultes sortiront de ces galles simplement en juin et juillet suivants. Alors, le synips du châtaignier, pour rappel, est arrivé en France en 2010 et s'est disséminé en 4 ans sur tout le territoire français. En Languedoc-Roussillon, des foyers ont été découverts dans les 5 départements. Aujourd'hui, le synips a été observé dans quasiment toutes les communes castanéicoles du Gard. Et le front d'infestation du synips, aujourd'hui, avance en Lozère à partir des foyers du Gard et de l'Ardèche. Alors, pour être plus précis sur l'état des lieux de l'infestation, il y a 112 communes qui ont été contaminées entre 2011 et 2015, donc 35 nouvelles en 2014 et 34 en 2015. En ce qui concerne la Lozère, ce sont les communes d'Altier, Saint-Andéol-de-Clergue-Mort, Saint-André-de-Lancise, Saint-Martin-de-Beau, Saint-Martin-de-Lensuscle et le Collet d'Aize qui ont été contaminées. Alors, concernant la lutte contre ce parasite, la seule méthode de lutte possible est d'introduire dans les châtaigneraies atteintes un parasite strictement inféodé au synips du châtaignier qui s'appelle le Torimus sinensis. Il s'agit d'une micro-guêpe qui pond en avril dans les bourgeons et gale infestée par le synips. Et ensuite, les jeunes larves de Torimus se nourrissent de celles du synips. Les adultes de Torimus ne sortiront des gales que le printemps suivant. Les populations de Torimus se développent aux dépens du synips et se dispersent rapidement. Ce sont des lâchers dits d'acclimatation, c'est-à-dire que l'auxiliaire s'installe dans le milieu et qu'il n'y a pas besoin de relâcher. Alors, en Languedoc-Roussillon, pour contrer cette menace, les producteurs de châtaignes, rejoints par les apiculteurs, se sont mobilisés pour organiser et mettre en place une lutte biologique. Ce sont plusieurs organismes qui accompagnent cette lutte. Il y a la Chambre régionale d'agriculture Languedoc-Roussillon. Il y a aussi la FREDON-LR, donc la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles. Il y a l'ULRAC, l'Union Languedoc-Roussillon des acteurs castanéicoles, et l'ADAPRO Languedoc-Roussillon, l'Association de développement de l'apiculture professionnelle en Languedoc-Roussillon. Alors concrètement, c'est la Fredon qui se charge de l'élevage pour fournir les Torimus. Les techniciens de la Chambre régionale d'agriculture organisent la lutte sur le terrain afin de favoriser la meilleure répartition possible des auxiliaires Torimus sur le territoire et notamment sur le front d'infestation du synips. Ils repèrent les zones contaminées sur le terrain en collaboration avec la Fredon. Ils font des prélèvements de galles sèches en hiver qu'ils confient à la Fredon pour faire émerger les éventuels Torimus. La Fredon confirme alors ou pas s'il y a déjà des Torimus sur la parcelle dont sont issues les galles. En fonction de la présence ou non de Torimus et du taux d'installation, de nouveaux lâchers peuvent être prévus pour le printemps prochain. La Chambre régionale d'agriculture organise l'hiver des formations pour les castanéiculteurs et les apiculteurs afin que ces derniers soient en capacité d'évaluer leur situation et de réaliser eux-mêmes les lâchers de Thorémus lorsqu'ils sont nécessaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la diffusion naturelle de Thorémus est très importante et efficace. Dans le Gard, par exemple, les parcelles nouvellement infestées en 2014 avaient le plus souvent déjà des taux de Thorémus présents dans les galles. Et il est indispensable de vérifier cette présence pour s'assurer que la lutte est rapide et efficace. Et justement, pour revenir sur cette efficacité, on va écouter un court extrait de l'intervention de Jean-Michel Thévier, donc qui nous parle de l'exemple de la vallée de l'Aroya dans les Alpes-Maritimes et nous propose aussi quelques préconisations.
Alors, pour quelle efficacité ? Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait donc, dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée de l'Aroya. C'est un travail que nous, on fait aussi aujourd'hui, mais on n'en est qu'à 2 années de relevé d'observation, donc c'est un peu court pour en tirer les mêmes choses que ce qu'ils ont eux. Donc en 2012, il y avait 64 à 68% de bourgeons qui étaient porteurs d'une gale. En 2013, ils ont refait le même travail, et donc il y avait déjà 44 à 55% de bourgeons avec une gale, donc déjà une diminution de presque 10%. Et puis encore une année supplémentaire, et donc là, le taux de bourgeons qui portait des gales s'était descendu de 5 à 10. Donc là, ça nous permet de voir l'efficacité de la lutte, quoi. Donc les arbres, là, d'ailleurs moi je le vois cette année à Fosières, où ça fait depuis que c'est infesté, les arbres ne poussaient plus. C'était des grappes de gales. Hein. Les photos que vous avez vues tout à l'heure, c'était les miennes de Fosières. Hein. C'est vraiment, ça ne pousse plus. C'est là comme ça, c'est figé. Et là, cette année, bah, ils ont refait des pousses. Ils sont repartis et ça fait 4 ans. Voilà. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on ne va pas chercher avec cette lutte-là à éradiquer le problème. Hein, on est bien tous d'accord là-dessus. C'est vraiment le point de départ. Il va falloir apprendre à vivre avec le synips. Ça, c'est obligatoire. L'idée, c'est d'arriver à une population d'équilibre. C'est-à-dire qu'il soit impactant, oui. On va tolérer 10% de pertes, comme on le tolère, par exemple, sur le Carpocaps, mais on ne va pas tolérer plus, quoi. Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut bien faire aussi, parce que je me suis aperçu qu'il y avait des endroits qui étaient infestés par le synips, mais qui n'ont pas été déclarés à la Fredon ou au SRAL. Et ça, il faut le faire. Pourquoi ? Parce que derrière, ça a été un autre travail qui a été réalisé par les professionnels du syndicat, et on fait partie du syndicat, l'ULRAC fait partie du syndicat national, c'est qu'on a obtenu de pouvoir bénéficier des indemnités, enfin pour les producteurs, hein, des indemnités de perte de récolte. Mais ces indemnités de perte de récolte, le producteur ne pourra y prétendre que si sa commune, si l'endroit où il ramasse a été déclaré infesté. Et on s'est aperçu qu'il y avait des endroits qui étaient infestés, mais qui n'avaient pas été déclarés. Donc, vérifiez bien que ça a été fait, quoi, chez vous. Voilà, ça coûte pas grand-chose. Vous passez un coup de fil à la Fredon. Vous dites, ben voilà, moi, chez moi, c'est infecté par le synips. Voilà, je vous en informe. Bon, ils vont vous dire, ben, on le sait, voilà, ok. Mais par contre, s'ils le savent pas, c'est le cas sur le Vigan, hein, je me suis aperçu que sur le Vigan, il y avait des trous comme ça, là, des endroits, c'était impensable qu'il n'y ait pas de synips, mais personne n'avait déclaré. Voilà. Et ben, les gens qui sont sur ces communes, qui produisent du fruit, et ben, s'ils prétendent à des ailes au fonds FMSE, ils ne pourront pas y prétendre parce qu'il n'y aura pas d'antériorité. Donc, faites bien les choses comme il faut, quoi. Ouais. Déclarez-le. Déjà d'une part, parce que c'est une obligation réglementaire. Mais au-delà de ça, derrière, il y a un impact économique, parce que sinon, vous ne pouvez pas prétendre aux aides. Et donc, ça, c'est l'adresse à laquelle il faut envoyer les échantillons. C'est Fredon, Languedoc-Roussillon, Les Garrigues, 8 rue des Cigales, 34 990 Juvignac. Donc là, ce que j'ai fait la semaine dernière, on a repéré dans tous les endroits où on a lâché du Thorémus, à partir des prélèvements de gales sèches, de l'année dernière, on a repéré les endroits où il y avait eu plus de 60% de Thorémus pour 1000 galles. Et c'est sur ces sites-là, donc là, ça veut dire que pour 2016, on pense ne pas avoir besoin de beaucoup acheter de galles à l'extérieur. On va aller prélever les galles qui vont servir à bâtir les lâchers. On va les prélever sur le Languedoc-Roussillon à partir de nos propres des endroits où on a lâché en 2014 et en 2013. Voilà. Donc on a repéré 7 ou 8 endroits où on avait plus de 60%. Donc là, on peut penser que donc là, ces gens-là, je les ai recontactés. Je leur ai demandé qu'ils me fassent un échantillonnage de 200 galles, parce que les chiffres que j'ai, 60%, c'est de 2014. Donc je pense que 2015, on sera encore mieux. Et donc ça nous permettra derrière de savoir combien de galles il va falloir que l'on collecte cet hiver, parce que c'est nous qui faisons ce travail-là, par contre, d'aller ramasser les galles sèches, les 7-8 000 galles, là, ou 10 000 galles qu'on va devoir ramasser. Si on veut faire 80 lâchés l'année prochaine, grosso modo, il va falloir récupérer X milliers de galles pour pouvoir les donner à l'Afredon pour qu'ils fassent les émergences derrière.
Vous avez pu constater que la lutte, finalement, est assez efficace. Donc, on a besoin, ce qui est bien rappelé, de l'implication des castanéiculteurs et des apiculteurs pour que ça soit bien efficace. Alors, juste un petit retour sur le nombre de lâchers de taurimusc qu'il y a eu. Donc, les premiers ont été lâchés en 2012. Il y avait simplement 2 lâchers dans le Gard. 3 lâchés en 2013, et puis un petit peu plus en 2014, et en 2015, ce sont 52 lâchers de taurimusc, donc qui ont pu être réalisés sur le territoire de la Châtaigne des Cévennes, et grâce notamment, il faut le souligner, au soutien financier du Parc National des Cévennes et de l'autofinancement des castanéiculteurs et des apiculteurs. Alors, de manière générale, les taurimusc s'implantent bien et l'on observe des zones infestées où il s'est même installé de lui-même, naturellement. On voit qu'il y a une sorte d'exponentialité dans le développement des taurimusc. Cela laisse espérer donc des résultats positifs pour une installation pérenne de cet auxiliaire. La dernière chose à rajouter, c'est quand même de dire que le coût de la préparation des taurimusc pour un lâcher s'élève quand même à 250 euros hors taxes. Et à cela, il faut rajouter le travail concernant la surveillance des nouveaux foyers, l'information, le pilotage et l'organisation des lâchers. Alors justement, à ce propos, il y a un appel qui est lancé, puisqu'aujourd'hui, ces coûts sont portés quand même principalement par les professionnels. Et donc il y a un appel pour un soutien. Alors je vais vous lire une partie du courrier qui est adressé. Alors, étendue sur près de 100 000 hectares en Languedoc-Roussillon, la châtaigneraie est le premier maillon d'une multifilière créatrice d'emplois sur notre territoire par la production de biens de consommation, châtaigne, miel, bois d'œuvre et de chauffage, et production de biens d'environnement par la capacité du châtaignier à façonner les paysages, héberger la biodiversité, générer de l'activité agritouristique. Aujourd'hui, là, avec l'arrivée d'un insecte originaire de Chine, le Cynips du châtaignier, tous les acteurs des filières castanéicoles et apicoles se mobilisent pour organiser la lutte et espérer maintenir un potentiel de production qui ne mette pas en péril l'économie locale et la grande qualité de nos paysages. Plus particulièrement, cette lutte biologique se concentre sur la production et le suivi de sa diffusion du taurimusc sinensis, seul prédateur connu du Cynips du châtaignier. Dans ce cadre, par la présente, donc l'ULRAC, l'ADAPRO, les syndicats apicoles départementaux, en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture et la Fredon, vous sollicitent ensemble pour formaliser les conditions d'un partenariat. Le soutien de tous est essentiel pour optimiser notre mobilisation sur les 3 ans à venir pour un coût estimé à près de 80 000 euros par an. Nous vous proposons de nous aider soit en nous octroyant une subvention. Donc là, ça s'adresse particulièrement aux collectivités locales, aux communautés de communes. Il y en a d'ailleurs un certain nombre déjà dans le Gard qui ont apporté une subvention. Ou soit en participant à l'appel à dons que nous lançons pour organiser la lutte biologique collective contre ce ravageur qui détruit ce patrimoine collectif que représente la châtaigneraie de notre arrière-pays. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet appel, vous pouvez contacter directement Jean-Michel Thévier à la Chambre régionale d'agriculture au 06 74 45 02 05. Voilà, j'en ai fini pour le Cynips. Juste quand même une petite information pour faire le lien avec ton sujet, Nathalie. C'est que quand on a du bois de châtaignier, du petit bois mort, ou avec potentiellement du taurimusc dessus, il faut bien le laisser sur les parcelles.
D'accord.
Voilà, et ben merci Nathalie.
Ben merci François.
Et puis ben on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.
À bientôt.
À bientôt. C'était Des fermes et des arbres, à retrouver une semaine sur deux, le jeudi à 13h30. À bientôt.